Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous jusqu'à midi. C'est votre magazine bien-être dans lequel on prend soin de vous chaque matin en direct. Alors Julia, on va s'intéresser à quoi ?
Eh bien on va se poser cette question aujourd'hui. Peut-on s'adapter tout en restant soi-même ? L'adaptation c'est un sujet d'actualité. Nous n'en avons jamais autant entendu parler que ces dernières années. Nouvelles technologies, marché du travail, mesures sanitaires. Bref, on verra comment faire du quotidien face aux changements pour ne plus les subir surtout. Et pour en parler, nous recevrons Julia Freund, autrice du livre « S'adapter sans se perdre » aux éditions Mango, et puis aussi Hélène Picot qui est coach en reconversion professionnelle.
Ensuite, à 11h45, ce sera notre séquence tendance. Tout d'abord, Sophie Braffman, notre spécialiste mode, va nous présenter les accessoires indispensables de cet été. Lunettes, chapeaux par exemple, quelles sont les formes, les matières, les couleurs pour la saison estivale 2022. Sophie nous expliquera tout. Et puis il y aura aussi Gavins Clémenté Ruiz qui sera avec nous ce matin, notre expert voyage. Il nous propose une escapade pas trop loin aujourd'hui, direction le Luxembourg. Vous n'aurez plus qu'à suivre le guide. Allez, bien fait pour vous, c'est parti.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1. Bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good. Notre question du jour, la voici. Peut-on s'adapter tout en restant soi-même ? Alors justement, lui, on lui demande tous les jours d'introduire notre sujet, aussi bien quand on parle d'amour que d'alimentation, encore d'héritage. Enfin bref, en matière d'humour adaptatif, il y connaît un rayon. Bonjour Clément Lannoy.
Bonjour tout le monde. En termes d'humour, je ne sais pas, en termes d'adaptation, c'est quand même impressionnant. Moi, qui était allergique aux nutritionnistes et au sport, je me retrouve quand même à faire une chronique dans une émission santé-bien-être. Ça, si c'est pas de l'adaptation. Alors justement, je vais essayer de répondre avant vous à cette question. Peut-on s'adapter tout en restant soi-même ? Selon André Gide, l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. Mais selon Thomas de Secret Story 7, si tu t'adaptes pas au monde, il s'adaptera à toi. Voilà quoi. Quand on cherche adaptation sur Google, puisque c'est mes sources, hein, le premier nom qui sort, c'est Didier Deschamps. Donc voilà, j'ai su m'adapter. J'ai pas du tout l'accent de Didier Deschamps, mais il a sait s'adapter avec ses joueurs. Et le deuxième, c'est Darwin. Et c'est de lui dont je voulais vous parler aujourd'hui, évidemment, et de sa théorie de l'évolution des espèces. Je vous explique. Selon lui, les espèces, puisque nous sommes des animaux, ne sont pas fixes et permanentes. Elles évoluent tout le temps et le corps se transforme d'ailleurs pour s'adapter à l'environnement. C'est pour ça, par exemple, que le dromadaire a une bosse capable de produire de l'eau pour qu'il survive dans le désert. C'est pour ça que la girafe a allongé son cou au fur et à mesure des années, pour aller cueillir plus haut. Parce que les girafes, au début, avec des tout petits coups.
Ah bon ? D'accord, on apprend des choses.
C'est comme vous et moi.
Exactement, mais je veux pas complexer les petits
vous
girafes.
Vous êtes plus girafe que moi, parce que vous avez un grand cou.
Oui, c'est pas la taille qui compte.
Je mange beaucoup de pommes.
Vous le savez. Les zèbres aussi ont adapté leur couleur pour se protéger au soleil et mieux se camoufler. Donc j'espère que ça va continuer à évoluer. Peut-être qu'un jour, les kangourous serviront de leur poche, je sais pas, comme sac banane pour ranger des clés, un téléphone portable. Que la queue des tire-bouchons nous permettra vraiment d'ouvrir de bonnes bouteilles. Pour résumer, donc, l'évolution de Darwin, c'est quoi ? En gros, on transforme notre corps, nos capacités, en fonction de l'environnement. Et ça nous permet de survivre face aux autres. Et c'est exactement pareil dans le domaine du travail. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer comment s'adapter au sein d'un groupe et sortir vainqueur dans chaque situation. Vous pouvez le faire avec des collègues. J'ai une technique très simple. Adaptez-vous aux opinions de ceux qui vous entourent. Ça s'appelle, globalement, il y a un terme technique, ça s'appelle la lâcheté. C'est très simple. Après chaque phrase, vous dites « Ouais, c'est clair, t'as trop raison. » Démonstration. Si votre collègue, votre patron arrive comme ça.
Tu trouves pas qu'il est nul, ce nouveau gouvernement ?
Ouais, c'est clair. T'as trop raison. Et puis si à l'inverse...
Et tu trouves pas qu'il est génial, ce nouveau gouvernement ?
Ouais, c'est clair. T'as trop raison.
Que Mélanie Gomez, sa paella, elle est pas si folle que ça, en fait.
Ouais, c'est clair. T'as trop raison.
C'est vrai que sa paella est pas si folle que ça. Voilà, je voulais juste créer un petit début d'embrouille. J'ai su rester moi-même.
Vous la goûterez jamais, Clément Lannoy. Vous savez quoi ? C'est une petite blague qu'on se fait, évidemment.
Et je crois qu'il l'avait goûté.
Paella. Non, il est dit qu'elle est pas bonne.
Pas encore. C'est un running gag, mais je m'adapterai. Et je goûterai.
Merci beaucoup Clément Lannoy. Je verrai, je ne suis pas sûre de vous en donner encore de la paella, mais on va se tourner maintenant vers nos invités, nos expertes. Je vais commencer par vous, Julia Freund. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'auteur du livre « S'adapter sans se perdre » aux éditions Mango. Avec nous également Hélène Picot. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes coach en reconversion professionnelle et l'auteur du livre « Libre vers un travail qui a du sens » aux éditions Déclic Factory. Julia Freund, ces dernières années, avec la crise sanitaire, évidemment, on a dû tous s'adapter à pas mal de contraintes, les masques, les confinement et j'en passe. S'adapter, ça a été vraiment davantage nécessaire qu'auparavant, justement du fait de cette crise sanitaire.
Oui, alors non seulement nécessaire là, mais pour le coup obligatoire. Je pense qu'en matière d'adaptation, c'était le saut dans le vide, dans le grand bain, sans bouée, sans rien du tout. Et il avait fallu faire face à toutes ces contraintes. Et surtout, ce qui était très spécifique, c'est que normalement, quand on fait face à une adaptation, admettons par exemple on divorce, ce qui est un grand changement difficile à aborder, on peut s'accrocher un peu à son cercle d'amis ou à la routine qu'apporte, au cadre qu'apporte son travail. Là, tout était touché. Mmh. Tous les domaines étaient touchés.
Alors, ouais, c'est du coup très difficile de s'adapter sur tous les domaines. Vous, Hélène Picot, vous êtes coach dans le milieu professionnel. Il y a eu évidemment la démocratisation du télétravail pendant cette période. Et là, c'est qui s'est adapté à quoi ? Est-ce que c'est nous qui nous sommes adaptés au travail ou c'est l'inverse ?
Alors, je pense qu'en fait, moi, ça fait 10 ans donc, que j'accompagne des personnes en changement de vie. Et depuis 10 ans, il y a vraiment cette quête de sens, envie de liberté, de flexibilité. Donc, ce qui s'est passé là, sur les 2-3 dernières années, ça a été un accélérateur. Mais finalement, les gens sont plutôt contents de se mettre en télétravail ou autre. Encore une fois, là, comme je rebondis sur ce que disait Julia, il y a une différence entre je m'adapte parce que finalement, c'est un truc dont j'ai envie. J'ai vraiment envie et donc j'y vais et oui, je vais m'adapter et voilà. Ou alors une adaptation obligatoire parce que quelque chose de l'extérieur nous oblige à faire quelque chose. Et là, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Mais bon, sur le télétravail, c'est vrai que la plupart des salariés sont contents de faire ça. Donc après, à voir comment le mettre en pratique et pour que voilà, la personne continue à être épanouie dans ce qu'elle fait. Quoi.
Julia Freund, je précise que ce n'est pas à Julia Vignali que je pose la question.
Je n'ai pas écrit de livre sur ça.
Vous auriez une définition peut-être pour qu'on pose bien justement les choses dès maintenant, l'adaptation. On a eu quelques idées avec Clément Lanoux, mais est-ce qu'il y a une bonne définition de ce qu'est l'adaptation ?
Oui, alors ce que dit Clément est important parce qu'effectivement ça fait partie de notre ADN, nous en tant qu'Homo sapiens. Si on n'avait pas su s'adapter, on ne serait pas là. Et l'adaptation, elle continue pour tout le monde, tout le temps. Après, l'adaptation, c'est en gros tenir compte des paramètres qui sont dans notre environnement et y apporter les réponses les plus appropriées possibles, celles qui vont répondre le mieux à nos besoins. Voilà. Donc en gros, notre corps, notre cerveau, eh bien, ils vont analyser en permanence ce qui se passe autour de nous. Ils nous donnent des informations. Et nous, à partir de ces informations, il faut qu'on adopte la conduite la plus appropriée, la plus bénéfique.
Hélène, dans votre travail de coach et de conférencière dans les milieux professionnels, j'imagine qu'au travail, la capacité d'adaptation, c'est une qualité importante, non ?
Alors, encore une fois, c'est une qualité importante, ça c'est sûr, hein, l'adaptation, comme l'a dit Julia. Enfin voilà, c'est la base. Nous, êtres humains, on est en constant changement. Enfin, déjà de notre naissance jusqu'à notre mort, ce n'est que du changement. Mais sur cette partie du travail, là où il y a un danger, c'est la suradaptation. Mmh. Et c'est vrai que quand même, dans beaucoup d'entreprises, alors il y a un distinguo entre les salariés et puis des personnes qui vont être entrepreneurs, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette constante demande de il faut se suradapter, il faut être agile. Alors ça, c'est un mot que je déteste. Et donc, il y a vraiment ce côté-là. Et c'est souvent d'ailleurs des managers ou des PDG qui vont dire oh, sois agile. Mais par contre,
eux ne le sont pas forcément. Ouais.
Forcément. Voilà, c'est exactement ça. La souplesse, c'est à tous les niveaux.
Et se suradapter, c'est quoi ? C'est obéir à tout ce qu'on nous demande ?
Il y a vraiment cette forme, effectivement, de soumission, mais je pense qu'on y viendra aussi. Et en fait, de loyauté. Et il y a cet aspect de, en fait, on a tellement eu l'injonction, il faut travailler dur dans la vie pour gagner sa vie. Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, on a toutes ces injonctions-là où le travail est important. Et en fait, on n'ose pas, alors c'est même pas une question de rebeller, hein, c'est juste de se reconnecter à soi et de se dire, mais moi, de quoi j'ai vraiment envie ? J'ai pas forcément envie d'un CDI et d'aller dans une boîte qui va me demander de rendre des comptes sur des sujets qui finalement n'ont pas de sens. Quoi. Mais heureusement, ça change.
Bon, très bien, on va la travailler justement cette quête de sens ce matin. Vous restez avec nous, Bienfait pour vous se poursuit dans un instant. On parle de notre capacité d'adaptation ce matin. D'ailleurs, ça peut effrayer certains, mais justement, il est possible d'apprivoiser sa peur du changement, de développer sa capacité d'agilité, même si on n'aime pas ce mot. On va vous expliquer comment ça marche. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Bienfait pour vous. Julia Vignali. Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre ce matin. On s'interroge autour de cette question, peut-on s'adapter tout en restant soi-même ? On en parle avec Julia Freund, l'auteur du livre S'adapter sans se perdre aux éditions Mango. Et puis Hélène Picot, coach en reconversion professionnelle et l'auteur du livre Libre vers un, vers un droit du travail, n'importe quoi. Ça sent pas la liberté ça, pardon.
Non.
Libre vers un travail qui a du sens aux éditions Déclic Factory. Alors Julia, on dit comme ça, s'adapter, ça a l'air quelque chose de simple, mais je sais qu'il y a des gens qui vont être un peu plus rebelles, peut-être pour qui c'est difficile au contraire et qui ont cette crainte de s'adapter, ça va me contraindre, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Parce qu'on aime, personne n'aime vraiment le changement en réalité. Hein.
Non, alors en tout cas moi non, et je pense qu'on est 2-3 dans ce cas-là. Il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, et il faut le dire, je pense que c'est hyper important pour ceux qui nous écoutent et qui se sentent un peu voilà, débordés, ne sachant pas faire face aux choses, cette peur-là, elle est universelle. Et elle est saine, en fait. Elle fait partie de notre mécanisme de survie. C'est-à-dire que notre cerveau, il doit, et notre corps, ils doivent bosser 7 jours sur 7, 24 sur 24, pour qu'on survive. Donc tout ce qui est changement, ça leur plaît pas.
Mais malgré tout, est-ce qu'il y a des profils particuliers qui s'adaptent mieux que les autres, les femmes plus que les hommes? Est-ce que ça dépend de l'âge?
Qui est plus agile? Si on n'aime pas ce mot.
Attention, interdit. Je pense que c'est assez bien distribué entre les sexes. En tout cas, je pense pas que. Enfin, je sais pas. J'ai pas fait d'études sociologiques, mais comme ça, vu le nez, je vous dirais que c'est pas fonction de ça. Je pense que on n'est pas tous complètement égaux face au changement et à l'adaptation, parce qu'il y a des gens qui ont cette propension à voir d'emblée ce qu'ils vont y gagner, et les autres ce que potentiellement ils peuvent y perdre. Mmh. Je pense que c'est plus là-dessus que ça se joue.
Entre les optimistes et les pessimistes, presque.
Oui, on pourrait dire ça. Et alors, quant aux enfants, on parlait des plus jeunes, des enfants, c'est sûr que les enfants, c'est les méga champions de l'adaptation.
Ouais. Mais on perd cette capacité en vieillissant quand même, hein. J'ai l'impression, assez vite, hein, finalement, déjà même à l'adolescence, peut-être.
Oui, on devient peut-être plus rétif au changement, on résiste. Puis je pense qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on évolue et on continue à s'adapter, parce qu'on n'arrêtera jamais, comme on l'a dit, tout au long de notre vie. Mais au fur et à mesure, je pense qu'on développe des idées qui nous rendent moins souples. On va se dire, oui, ça n'arrive qu'à moi, ou ça sert à rien, ou je suis trop vieux, c'est plus la peine. Et c'est ça qui nous fait perdre en souplesse et donc en agilité.
Hélène Picot, alors je rappelle que vous êtes coach en reconversion professionnelle. C'est quelque chose que vous avez remarqué, vous aussi, peut-être, dans vos différentes missions. Est-ce qu'il y a des profils de gens, quand même, plus caméléons que d'autres? Julia parlait de la différence entre les sexes, mais je ne sais pas si c'est de là que ça part, en fait.
Oui, il y a un peu ça. Alors déjà, c'est vrai, hein, la peur du changement, elle est inhérente à tout le monde. Alors oui, vous prenez, je crois, l'émission tout à l'heure, il parlait de Mike Horn. Donc c'est sûr qu'un Mike Horn, il est un peu moins frileux, on va dire.
Ouais, c'est ça.
Mais sinon, on a tous, en fait, une base de peur. Et le tout, ça va être de surmonter ça. Parce que si on ne surmonte pas cette peur, finalement, on reste toujours dans une... Enfin, on ne s'adapte même pas. Et finalement, on ne fait pas grand-chose de sa vie, de son quotidien. Donc c'est petit à petit se lancer aussi des challenges pour, voilà, pour se développer et puis oser changer. Maintenant, le changement, la femme, on le porte beaucoup plus que l'homme. Hein. Moi, je le
vois. Franchement, je l'avais en tête. Hein. Je pensais que les femmes étaient adaptées mieux quand même. Hein, mais
oui,
j'osais pas le dire.
Il faut le dire tout de même. Et c'est vrai, dans toutes les personnes que j'accompagne, alors sans faire de sexisme, mais la femme, elle porte en elle un changement qui est voilà, tous les mois, voilà, les cycles et tout ça. On est connecté voilà, à tout ça. Et donc, forcément, on a plus de capacité à changer. Et on sait que. Mais aussi, on va potentiellement se suradapter. Et c'est là qu'il faut faire davantage gaffe que les hommes. Et si je peux finir avec ça, parce que ça illustrera bien. Il y a une dizaine d'années, il y avait une grande banque qui avait fait une étude sur les différences de comportement entre hommes et femmes dans tout ce qui est, on postule à une offre d'emploi. Les hommes, s'ils n'avaient que 50% de ce qui était demandé dans l'offre, en termes de compétences, de savoir-être et tout, ils répondaient. Ouais. Les femmes, il fallait qu'elles aient au moins 95% pour répondre. Donc, les nanas, on y va. C'est vraiment ça qu'il faut oser.
Dites-moi, Hélène, dans le milieu du travail, c'est vrai aussi hein, que l'adaptation est importante. Mais j'ai l'impression quand même que quand on est jeune, on est peut-être un peu plus souple avec l'expérience. On sait aussi davantage ce que l'on veut et c'est peut-être plus difficile de s'adapter, non? Je sais pas, quand on a un manager plus jeune que soi qui nous demande de faire un tas de changements et que nous, on a plein d'expérience, c'est pas évident.
Oui, mais c'est vrai que là, sur ce côté générationnel, ça bouge aussi. Il y a 10 ans, moi, j'accompagnais des gens qui avaient entre 33 et 43 hein, dans leur changement de vie, changement de voie, reconversion. Aujourd'hui, c'est 21-66 ans.
Ah oui,
il y a vraiment eu une vraie révolution. Des jeunes de 21 ans qui sont en stage de fin d'études, ils ont fait leur bac plus 4-5 et ils viennent me voir en me disant « mais en fait, ça ne va pas être possible, moi je ne peux pas rentrer dans cet univers-là ». Et à l'inverse, des personnes qui ont 50, 60, 60 ou 65 même, hein, qui sont à la veille de la retraite, vont dire bah, « moi, je me suis suradaptée toute ma vie, j'ai fait un boulot qui n'avait pas de sens, mais maintenant, j'ai envie de pouvoir rebondir sur une vie voilà, qui va me plaire vraiment et qui me ressemble ».
Et les jeunes aujourd'hui, et même vous l'êtes aussi, hein, c'est pas que vous pas jeune, mais vous êtes une slasheuse. Les slasheuses, on va expliquer ce que c'est que vous cumulez finalement plusieurs fonctions. Vous êtes conférencière, coach, autrice. J'imagine que vous avez dû vous adapter énormément. Être slasheuse, c'est s'adapter en permanence. Et je crois que les futurs employés de demain auront, je crois, il y a eu des études de perspective là-dessus, au moins 13 emplois différents dans leur vie, 13 postes différents. Donc c'est ça, on sera tous des slasheurs plus tard
Tous, non. On est à peu près 20% de la population à vraiment avoir ce côté, on a envie de faire plusieurs choses en même temps. Alors là où d'autres personnes vont faire plusieurs choses, mais les unes à la suite des autres. Nous, on a besoin d'avoir la totalité, d'avoir plein d'activités, qu'elles soient d'ailleurs rémunérées ou pas, hein, mais c'est vraiment de prendre la vie dans sa globalité. Et ça se fait, oui, ça va se faire de plus en plus. Mais encore une fois, être slasher, c'est juste se dire, mais moi, qu'est-ce qui me met en joie? Et la bonne voie, c'est là où il y a de la joie. Donc, si vous voulez faire un seul métier ou deux ou 10, bah, en fait, allez-y. Et donc, faut pas se limiter. Après, c'est une question d'organisation et oui, d'adaptation. C'est
de planning, quand même.
Ouais, bien sûr.
Alors, Julia, je crois que vous dites hein, que le processus d'adaptation suit
effectue un cycle de 4 étapes. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer rapidement, ces 4 étapes ?
Oui, alors comme tout ce qui se produit dans notre vie, en fait, il n'y a rien qui est linéaire. En fait, c'est des cycles. Et dans ces cycles, qui sont les cycles du changement, il y a d'abord celle du lancement. On va, par exemple, je ne sais pas, avoir un nouvel amoureux ou on a envie de déménager à la campagne. Et là, c'est génial. Là, on est dans l'été, il fait beau, tout roule. Et puis, il va se passer des petites choses. Ça va être un peu ce qu'on appelle la période du désengagement. On se rend compte que l'amoureux, je ne sais pas, il ronfle, il est un peu proche de ses sous, que finalement, la campagne, c'est sympa, mais les copains ne viennent pas vous voir. Mm-hmm. Donc là, c'est une phase de désengagement, de désenchantement. Alors, on va tout faire pour que les choses se rééquilibrent, parce que ça aussi, ça fait partie de notre fonctionnement d'humain. Et si ça ne fonctionne pas, là, on va tomber dans la période de l'hiver, qui est un peu celle de la déprime, on va dire.
Ça, c'est la troisième période, celle de la déprime. Et la quatrième, j'espère que c'est le printemps, non ?
Oui, c'est le renouveau. C'est le renouveau. On va repartir sur autre chose. Et il y a des choses qui vont pouvoir renaître. Et ce qui est important, c'est qu'on va, pour lancer ce printemps, ce nouveau cycle de changement, puisque ça va continuer en permanence, on va pouvoir se nourrir aussi des périodes qui sont plus immobiles, qui nous paraissent a priori négatives. Mais de ça, on peut apprendre des choses. On peut apprendre, par exemple, que quand on choisit un amoureux, vaut mieux pas qu'il soit radin.
On en a parlé il n'y a pas longtemps, en plus, des hommes et des femmes radins. Julia Freund, on a tendance à se mettre beaucoup de pression partout dans sa vie. On veut tout faire rentrer dans nos plannings, le travail, la vie de famille, faire du sport. Mais notre capacité d'adaptation, quand même, qu'on soit slasher ou pas, elle n'est pas étirable, on est d'accord, à l'infini. C'est pas possible non plus.
Alors, on peut s'adapter à beaucoup de choses, à énormément de choses. Alors, à l'infini, certainement pas, mais enfin, on a quand même tous une grande capacité d'adaptation. Après, quand l'adaptation, elle se fait au prix de notre santé physique et mentale, là, on va vite avoir l'addition. C'est pas possible. Donc, vouloir, se plier et répondre toujours aux attentes extérieures, c'est pas s'adapter. C'est pas s'adapter, tout simplement, en fait.
Justement, Hélène, c'est pareil. J'imagine, dans le milieu pro, on a envie de montrer qu'on est performant à tout prix et qu'en plus, on est un collègue super sympa. Mais s'adapter, ça finit par être totalement usant. Ça peut tourner au burn-out, ces histoires, non ?
Mais ça, c'est vraiment la suradaptation. C'est pas de l'adaptation. Et en fait, le problème, c'est que depuis des décennies, dans l'univers professionnel, il y a eu ce côté suradaptation qui a effectivement mené à de plus en plus de burn-out. Mais finalement, c'est terrible ce que j'allais dire, mais c'est un mal pour un bien. C'est que quand on arrive dans cette phase-là de burn-out, on est obligé d'arrêter et de prendre du recul sur sa vie et de se dire, mais attends, ça me convient plus, ça me convient pas, et je vais reprendre le pouvoir sur moi, qui je suis, et apprendre à mieux me connaître, et finalement complètement transformer ce qui doit l'être.
On a une question de Nicolas des Vosges qui demande, est-ce qu'on peut améliorer ou muscler sa faculté d'adaptation, ou bien c'est voué à diminuer avec l'âge ? Julia, peut-être ?
Alors oui, je pense qu'on peut, la muscler, ce qui est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que c'est aussi une compétence et donc on peut la travailler.
Si c'était pas le cas, on n'aurait même pas fait l'émission, je pense.
C'est vrai. Si ça servait à rien, on serait pas venu. Mais c'est rassurant pour ceux qui se pensent pas très armés au départ. Donc moi, je serais plutôt partisane de regarder déjà ce qu'on a et qu'en fait on a déjà beaucoup de choses plutôt que d'aller chercher toujours des choses à l'extérieur.
Par exemple,
de se dire
on a déjà en soi
plein de choses qu'on peut faire fructifier. Et qui vont nous permettre...
Quelques exemples de ces choses qu'on peut faire fructifier. Qu'est-ce que vous avez, vous, par exemple, que vous pouvez faire fructifier ?
Qu'est-ce que j'ai ? C'est la question... Je ne sais pas.
Piège,
effectivement. Non, mais par exemple, si...
Je suis sociable, admettons, c'est une qualité, c'est ça ? Ça pourrait être ce genre de choses ?
Oui. Alors, on peut se servir de ça, par exemple, de cette sociabilité. Par exemple, admettons, vous êtes sociable, mais par exemple, pour ce qui est recherche de travail, envoi de CV, ce n'est pas votre fort. L'écriture, vous détestez. Pourquoi pas décrocher votre téléphone ? Vous vous appuyez sur une qualité que vous avez et puis vous allez vers des choses qui vous font un peu plus peur. Et je pense qu'il faut quand même si on n'aime pas ça, et même si on est des anxieux, et même si on est des trouillards, il faut aller se frotter quand même aux choses, et de plus en plus, à petits pas, par petites étapes, et ça construit quand même quelque chose.
Mais ça demande beaucoup d'énergie, tout ça, hein ?
Oui, ça demande énormément d'énergie.
Il faut sortir de sa zone de confort et y aller, quoi. C'est pas évident.
Oui, et là c'est la même chose. On entend beaucoup parler de zone de confort depuis quelques années. Manque de bol, quand on nous en parle, c'est en général pour nous dire qu'il faut en sortir vite fait. Et la zone de confort, elle ne s'appelle pas comme ça par hasard. On est bien dans sa zone de confort, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je suis bien.
Hein, on est tranquille, etc. Donc oui, et puis il faudrait toujours se mettre des coups de pied au derrière, devenir une meilleure version de soi-même. Cette mode-là qui va aussi avec la mode du développement personnel. Mais je pense qu'on peut... là-dedans, aller piocher, faire l'inventaire de sa zone de confort et voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Non, pas forcément y rester. Pas forcément y rester, mais y rester quand elle ne nous apporte pas ce qu'il faut, quand il y a du manque.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Bien fait pour vous. Continue dans quelques minutes. On vous guide ce matin pour vous aider à mieux vous adapter à toutes les situations personnelles, professionnelles. Et grâce à nos conseils, vous allez développer vos capacités de caméléon. Pour en savoir plus, surtout restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On vous aide aujourd'hui à mieux vous adapter à tous les changements que vous pourriez rencontrer. Et pour en parler, nos deux invités sont toujours avec nous. Julia Freund, l'auteur du livre « S'adapter sans se perdre » aux éditions Mango. Et puis Hélène Picot, coach en reconversion professionnelle et l'auteur du livre « Libre au pluriel » vers un travail qui a du sens aux éditions Déclic Factory. Alors Julia, on l'a vu, hein, s'adapter c'est important, voire nécessaire, mais parfois on peut avoir tendance à trop en faire, à faire trop de concessions et oublier ce que l'on veut vraiment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel moment il faut être alerté, justement à quel est le moment où on s'adapte trop ?
Alors on est dans la suradaptation, on a commencé à le dire, quand on répond uniquement aux demandes extérieures sans se poser la question de ce qui est nécessaire pour nous, ce qui fait partie de nos besoins et ce qui nous apporte de la joie. Alors il y a différentes, ça dépend du domaine, mais je pense qu'on peut, par exemple dans le domaine amoureux, avoir tendance à se perdre complètement dans le désir de l'autre, de vouloir lui plaire.
Ça c'est très fréquent. Hein.
Ouais, c'est très fréquent. Je pense qu'on est nombreux peut-être à avoir un peu ce point-là. Et ce qui est naturel, on a envie de faire plaisir, mais il faut faire attention à rester soi. On peut avoir par exemple se rendre compte qu'on a oublié ce qu'on aimait nous, nos goûts, tout simplement, de vacances, de musique, etc., parce qu'on veut plaire à l'autre. Et puis, il faut faire attention dans le domaine du travail, quand il y a une perte de sens, quand il y a un manque de motivation qui perdure, quand on a aussi, même ça peut être des symptômes physiques, quand on a les cervicales en vrac tous les 15 jours, quand on a mal à la tête, quand on n'arrive plus... Enfin, il y a plein de petites choses, des petits signaux qui vont nous être envoyés.
Hélène Picot, vous confirmez, vous étiez peut-être pas tout à fait d'accord sur la zone de confort dont on parlait tout à l'heure, mais en tout cas, quels sont les signaux qui doivent nous mettre en alerte dans le milieu vraiment professionnel, votre spécialité ?
C'est effectivement à partir du moment où il n'y a plus de joie. Moi, c'est vraiment le gimmick, c'est la bonne voie, c'est là où il y a de la joie. Et ça, c'est la première des choses. Et ne pas avoir peur de remettre sa vie à plat. Et la clé, hein, c'est vraiment commencer à apprendre à se connaître. Parce que depuis quand on est petit, on est vraiment comme on est. Et arriver à l'adolescence, l'éducation, même les conditionnements qu'on peut avoir de la société et autres, on rentre dans des moules. D'ailleurs, on rentre aussi dans des boîtes professionnelles. Et en fait, c'est vraiment ça. Et on est tellement dans des moules et dans des étiquetages qu'on a tendance à s'oublier complètement, que ce soit personnellement, amoureusement, professionnellement.
Et sauf que quand on s'oublie professionnellement, parfois on n'y pense pas, on a la tête dans le guidon. Donc ça veut dire que tout le monde devrait faire de temps en temps cette remise à plat, cette remise en question.
À partir du moment où il n'y a plus de joie, où on est en quête de sens et où on commence à entendre cette petite voix, parce qu'on l'entend, hein, la petite voix qui dit oh, putain, t'es sûr que c'est ça là vraiment, ça te fait vraiment vibrer. Et en règle générale, soit on l'écoute et c'est génial, soit on ne l'écoute pas. Et comme l'a dit Julia, c'est la maladie.
Mais Hélène, c'est pas évident parce que la joie, même si on adore notre travail avec Mélanie, il n'y en a pas tous les jours. Parfois, il n'y a plus. Non, mais. Mélanie, non mais ce que je veux dire,
remettre en question.
Non mais même dans son couple, tout ça. Je veux dire, c'est la joie intersidérale.
La joie, c'est pas le plaisir immédiat comme le shoot de chocolat ou voilà. C'est vraiment à l'intérieur de soi. C'est est-ce que là, la vie que je suis en train de mener me convient vraiment et est-ce qu'à tous les pans. Alors bien sûr, les moments où, comme le disait Julia, on est dans l'hiver, ça va moins, c'est hyper important parce que si tout va toujours bien. On ne
sait
pas
reconnaître.
On change pas.
Et quand ça ne va pas l'hiver, tout ça, on ne remet pas forcément tout à plat non plus. On se calme.
Non, pendant l'hiver, on est sous la couette et puis voilà.
Voilà. Donc c'est été plutôt.
On fait ça. Non, mais c'est plutôt de se dire bon, cette période de gestation où je ne suis pas bien, en fait, elle a un sens aussi. Mm-hmm. Et en fait, on est en gestation de quelque chose qui va être fabuleux. Ça, c'est sûr. Mais elle est là pour nous appeler au changement.
Julia, justement, si on réalise ce que vous nous avez dit tout à l'heure, donc il manque là aussi, on est toujours sur ce truc de la joie, mais si on réalise ça, ou que dans son couple, on s'est oublié, qu'on a oublié effectivement qu'on aimait écouter la musique, aller au cinéma, on ne le fait plus parce que l'autre n'aime pas trop ça. Une fois qu'on a fait ce constat-là, comment on réagit ? Est-ce que vous avez des stratégies ? Qu'est-ce qu'on met en place pour faire quelque chose quoi, et en sortir de ça ?
Alors déjà, il faut effectivement mettre les choses à plat, comme le disait Hélène, avoir cette prise de conscience qui n'est pas, pas évidente.
Et une fois qu'elle est faite alors ?
Et une fois qu'elle est faite, j'y viens, il va falloir s'adapter. C'est-à-dire
s'adapter, ça ne veut pas dire divorcer par exemple. Parce que là, on parle du côté amoureux, vous disiez, parfois on s'oublie parce qu'on veut plaire à l'autre. Mais si je réalise que le bilan il n'est pas top, ça ne veut pas dire forcément qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre.
Non, pas forcément. On est de toute façon toujours co-responsable dans sa relation. Donc ce n'est pas l'autre... n'est pas forcément fautif ou on n'est pas totalement fautif soi. Donc voilà, il faut faire ce bilan-là et voir, en gros, s'adapter, c'est s'ajuster en permanence. C'est qu'est-ce que je peux, dans cette situation-là, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui est à ma portée ? Qu'est-ce que je peux faire et quelle serait l'action la plus appropriée ? Ça peut être de changer de braquet et de commencer à s'affirmer, à dire non, j'aime pas ça, je ferais plutôt ça, enfin voilà, dans le couple, voir comment répond l'autre. Alors évidemment, si on a face à soi un mur, peut-être qu'il va falloir réfléchir à autre
chose. Au
divorce ? Oui, peut-être. Et puis pour le travail, Hélène en parlera certainement mieux que moi, mais je pense qu'on peut aussi aller voir son supérieur, voir s'il y a des... Comment on peut trouver des ajustements, par exemple ?
Et d'ailleurs, c'était la question que je voulais vous poser, Hélène. Quand on est justement, on a la sensation parfois de se faire exploiter au travail et de ne pas être heureux, c'est un signe d'alerte. C'est quoi le premier pas à faire pour sortir de cette situation dans laquelle on a donné un peu trop de sa personne ?
Le premier travail, c'est de se retrouver. Enfin, moi, j'ai créé la méthode qui s'appelle « Rêver, oser, foncer ». C'est déjà dans le titre. Hein. Et la première des clés, c'est lever tous les freins finalement qu'on peut avoir, qu'on nous a mis aussi, hein, tous ces carcans, toutes ces injonctions, et de reprendre le pouvoir. En fait, il faut rêver. On interdit aux gens de rêver aujourd'hui. Donc c'est vraiment, c'est quelle vie tu as envie de mener, mais quelle vie avec un grand V, c'est-à-dire la vie personnelle, amoureuse, spirituelle, géographique, le style de vie et la vie professionnelle. Mais c'est au travail de s'adapter à la vie que la personne veut mener. Donc rêver en grand, en fait. C'est la première des choses à faire.
Julia, je crois que vous dites qu'il faut aussi garder un esprit critique et ne pas se conformer à tout prix à tout. C'est ça la solution pour bien s'adapter ? C'est toujours aiguiser comme ça cet esprit critique, ça passe par là ?
Oui, personnellement, j'en suis persuadée. Je pense que de manière générale, cultiver son esprit critique, c'est très bien. Il faut essayer de le faire et c'est pas si évident que ça.
Et comment on fait alors justement ?
Mais c'est de ne pas faire... il peut y avoir une forme d'arnaque intellectuelle qui est entretenue dans la société, dans nos croyances personnelles, qui veut nous faire croire que s'adapter, c'est emboîter le pas, en fait. Il y a quelque chose de nouveau, il faut l'accepter, on y va, à toutes les contraintes extérieures. Non, il faut toujours mesurer les choses à l'aune de ce qui est important pour nous, à l'aune de ce qui nous apporte effectivement de la joie, de ce qui est aligné avec nos valeurs. Et voilà, c'est pas parce que quelque chose nous est présenté comme une nouveauté à laquelle s'adapter que c'est vrai.
Hélène, on a vu qu'aujourd'hui, on pouvait adapter son travail à son mode de vie. C'est une bonne chose, ça, selon vous ? Et est-ce que c'est l'avenir ?
Oui, je crois que c'est vraiment une bonne chose. Parce que les personnes vont commencer à faire ce qu'elles aiment, à être alignées, à commencer aussi, comme tu le dis, à se connaître davantage. Et en fait, on a le droit de casser le moule, quoi. On a vraiment le droit, chacun, de vivre comme on a envie de vivre. C'est pas parce qu'on va nous dire, voilà, il faut avoir un CDI, s'acheter sa baraque en province ou ailleurs, et son pavillon avec son labrador, qu'on est obligé de le faire. Moi, je suis nomade, par exemple. Je vis, mon camp de base est à Montmartre, mais je sillonne, je voyage tout le temps et je travaille en même temps. Et c'est génial. J'ai plein de des personnes que j'accompagne qui cassent et qui sortent de ces conditionnements.
Donc, ça veut dire, Hélène, que si on le souhaite, il ne faut pas hésiter à demander à son patron des jours de télétravail. Si c'est pour mieux gérer sa vie perso, on y va.
Alors, quand on est salarié et qu'effectivement, on a envie de rester salarié, et puis c'est tout à fait louable, hein, chacun, tout le monde n'est pas entrepreneur, c'est effectivement de prendre une feuille. Moi, j'appelle ça la liste au Père Noël. Et c'est dans ce cas-là, si toi, tu as vraiment envie de rester dans ton travail, ou d'être salarié dans une autre société, c'est quoi le top du top là-dedans ? Est-ce que c'est effectivement du télétravail ? Est-ce que c'est carrément du remote working et t'es full télétravail à 100% du temps ? Remote working, c'est d'être en télétravail non-stop. On ne va pas du tout dans la boîte. Est-ce que c'est... au contraire, moi j'ai quand même envie de voir mes collaborateurs et donc d'être plus davantage là, mais d'être au 4-5e et donc de commencer à réduire mon temps de travail parce que j'ai envie de faire autre chose ou de cultiver mon potager, et c'est très bien. Hein, c'est,
Ça me parle bien.
Avec la paella, il y aura les bons légumes.
Ça. Mais ce que vous dites, la liste au Père Noël, je vois tout à fait le principe, mais néanmoins, parfois, il y a la réalité. Et si mon patron, il n'a pas du tout envie de mettre le chapeau de Père Noël et répondre à tous mes désirs...
On change de boîte.
Ouais, mais ce n'est pas toujours si simple.
En fait, si. C'est juste qu'on se met tout le temps des espèces de... Ah ouais, mais alors là, avec la crise, ça va être terrible et tout. Et donc, on n'essaye même pas. Et à partir du moment, je le vois, moi, dans toutes les personnes que j'accompagne, 80% effectivement vont créer leur boîte, mais 20% restent salariés et ils
arrivent à poser leurs conditions aussi.
Mais on a toujours le droit. Et c'est qu'on se met tout le temps dans ces espèces d'injonctions, de carcans, et qu'on ne sort pas justement de ces espèces d'injonctions qu'on nous a données.
Hélène, je rappelle que vous êtes coach en reconversion. J'imagine que vous avez été face à des personnes qui voulaient du jour au lendemain tout plaquer pour changer de vie.
Tous les jours.
Tous les jours. Bon, alors, qu'est-ce que vous conseillez à ces gens-là ?
Foncez.
Après la saison, en hiver aussi.
Mais en fait, bien sûr, ils viennent me voir et en fait, en 3 mois et demi, ils savent vraiment vers où aller. Mais la première chose qu'on me dit, c'est je veux changer, mais je sais pas dans quoi. Et la clé, c'est d'abord la redécouverte de soi, parce que ils ne se connaissent pas. Et quand je dis, dans ton idéal, ce serait quoi ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? personne n'est apte à répondre à ça tant qu'on n'a pas fait le travail de « je me reconnecte à qui je suis » et voilà, et je repars vers le rêve, quoi. Mais après, bien sûr
ça
que...
Ça fait envie. Vous feriez quoi, Mélanie, vous ?
Ben moi, je suis bien, là, franchement. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, je réfléchisse, mais j'ai l'impression d'être à ma place, quoi, et tout va bien. Et il y a de la joie.
Mais je ne lui ai pas dit tous les jours, donc on va travailler.
Mais non, c'est pas pour qu'il y ait de la joie. Mais parfois, il peut y avoir de la fatigue, des choses comme ça.
Oui, mais c'est différent. Moi aussi, il y a des moments où je suis fatiguée, mais c'est normal. On reste humain, heureusement.
C'est vraiment à la portée de tous, Julia, de s'adapter. On va terminer par ça. Mais on pense parfois que les personnes âgées deviennent un peu obtus sur certains points. On a tous un voisin grincheux, un peu âgé, qui veut pas, voilà, je sais pas, qui nous embête et qui lui ne veut jamais changer rien. Enfin, comment on fait pour lui l'aider un petit peu à bouleverser ces choses-là?
Moi, je pense qu'on peut s'adapter à tout âge et que vraiment.
Même à 80 ans?
Oui, j'en suis intimement persuadée. Et je pense que peut-être que notre société n'a pas tellement de reconnaissance et de respect pour le boulot d'adaptation que font les personnes âgées. J'ai une petite mamie qui décide de faire face au fait qu'elle peut plus se servir de ses jambes en utilisant un déambulateur. Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle s'adapte.
Et je pense que vraiment, on peut s'adapter. On voit des gens qui divorcent à 70, à 75 ans. Alors
ça n'existait pas avant ça.
Ça n'existe pas. Et on reste acteur de nos vies, même si voilà, il y a des circonstances qui rendent les choses plus ou moins faciles. Mais oui, on peut le faire.
Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été à nos côtés ce matin. Et merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Et bien, dans un instant, ce sera notre séquence tendance avec Sophie Braffman, notre spécialiste mode. On va découvrir quels sont les accessoires indispensables de cet été. Lunettes, chapeaux par exemple. Quelles sont les formes, les matières, les couleurs branchées pour cette saison estivale. On va voir tout ça. Et puis, il y aura aussi Gavins Clemente Ruiz, notre expert voyage qui va nous proposer une escapade au Luxembourg aujourd'hui. Tout ça, c'est dans un instant et c'est sur Europe.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous, l'émission qui fait du bien. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi. Alors à présent, on passe à notre tour de table des tendances. Et autour de la table, il y a déjà Gavins Clemente Ruiz. Bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous allez nous embarquer dans le Grand-Duché, c'est ça ?
Exactement, on part au Luxembourg. Et oui, on ne connaît pas assez, c'est très proche de la France, c'est vraiment à la frontière. Et puis, on ne connaît pas toutes les merveilles naturelles, notamment pour faire de la rando, ça va être très très beau.
Jamais j'aurais pensé effectivement partir en escapade avec vous au Luxembourg. Mais je suis ravie, on va découvrir ça dans un instant. Avant de partir en vacances, justement, au Luxembourg, il va falloir qu'on prépare notre valise d'été.
Carrément.
Car même au Luxembourg, cette saison, il est préférable de porter par exemple des lunettes de soleil, j'imagine.
Oui.
On va essayer de bien les choisir avec vous, Sophie Braffman. Bonjour Sophie.
Bonjour Mélanie, bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Allez, c'est parti, on vous écoute.
Alors, pour le Luxembourg, Vincent, moi, je vous recommande une petite chemisette ouverte. Je sais que vous n'êtes pas très fan de la chemisette, mais
Vincent,
malgré tout...
Oui,
je pense qu'il va...
Moi, c'est Gavin.
Non, pardon, Vincent, je ne sais pas pourquoi. Vous savez quoi ? Il est temps que je prenne des vacances, moi aussi. J'ai un coup de chaud et je n'ai pas mis de linge, je vais transpirer. Je vous en parlerai après.
D'accord.
Alors, donc, pour les vêtements de cet été, la petite chemisette donc, que vous n'allez pas apprécier, mais ce n'est pas grave. Pourquoi on a envie de beaux vêtements l'été ? Parce qu'on a envie d'un tube de l'été. Et voilà. Et ça, les filles, tout de suite, ça vous donne envie de porter un chapeau, n'est-ce pas ? Alors, donc, cette saison 2022, le chapeau est de circonstance. Alors, vous l'aurez en capeline, vous l'aurez en cloche, vous l'aurez en version crochet, Mélanie, car le crochet...
Le crochet, j'aime bien.
Exactement. Il vous plaît, Julia ?
Moi, j'ai eu le plus moche des deux.
Non, alors, Mélanie, ne dites pas ça. C'est du crochet.
Ça vous va bien.
Voilà.
Mais on ne voit rien.
Je suis sûre que c'est confortable. C'est la grande tendance de cet été.
Le problème, c'est qu'on ne voit plus du tout devant soi.
Alors, Mélanie, il faut remonter la bordure du crochet. Voilà, c'est très important. Pourquoi je vous parle du crochet ? Parce que c'est la matière qu'on va porter cet été et bien sûr un été très chapeauté. Alors vous l'avez en capeline comme Julia là, et chez Equinox. Vous aurez bien sûr des borsalino, enfin toutes sortes de chapeaux et cette fameuse matière en crochet. Si vous avez envie de vous balader dans votre camping, vous allez vous faire repérer, c'est une certitude. Alors le crochet va se retrouver évidemment un peu partout sur vos têtes, mais aussi ailleurs. Autre matière très nouvelle, Mélanie, pour cet été, on porte de la laine.
Ah bon,
et ne soyez pas surprise de la laine.
Ça va être super saillant.
Vous plaît le petit short ?
C'est vous qui l'avez tricoté celui-là, non ?
Alors pas du tout, c'est American Vintage, merci beaucoup, ils l'ont très bien tricoté. C'est un petit short jaune parce que non seulement porte des matières insolites, mais en plus des couleurs très insolites et donc très vives. Donc le crochet en laine, plutôt la mérinos jaune, qui va totalement faire son effet sur la plage. Pas d'été les filles sans sexy attitude, non ?
Oui, c'est normal.
Vous vous sentez un peu
super motivée.
Surtout avec ce petit chapeau.
Ouais, je vous sens motivée pour la sexy attitude.
Ça me va pas ?
Alors si ça vous va très bien, ça nous donne envie tout de suite d'écouter un peu Madonna, hein, quand on pense forcément à la sexy attitude.
Ça c'est
l'été. Alors... Là, je vois que je vais vous convaincre. La petite robe de plage rouge, voilà, facile à porter. Donc, robe tube, hein, qui est quand même très, très, très près du corps. Là, on est sur un côté un peu plus romantique. Je vous parlais du crochet tout à l'heure.
Donc, décrivez-la, cette robe, pour nos auditeurs.
C'est une robe blanche avec des boutons assez couture, je dirais même chanelisant pour le coup.
Exactement.
Un petit liseré noir en fait. Sur
ça vous irait bien, Gavin, vous
mais
la tenez bien.
Que pour une sortie de bain, ça pourrait être sympa.
Oui, alors oui, voilà, vous pouvez la proposer à votre femme, je suis sûre qu'elle va lui plaire.
Va
et pour
plaire.
Un été en Grèce, hein, on a envie de quelque chose de très romantique. C'est vous ça. Allez en Grèce parce que monsieur.
Ça
va
vous irait bien, je vais en Grèce, moi.
Ah, voilà. Donc, et alors, justement, on voit sur cette robe, ça c'est une des grandes tendances de cette saison, on voit le côté, le détail sur les boutons, puisqu'on va avoir des bijoux un peu partout, et notamment, Mélanie, alors ça, il faut absolument parler,
oh là là,
la tongue bijoux. Alors, qu'est-ce que c'est la tongue bijoux? Donc là, c'est chez Arizona Love, bien évidemment, on va le poster. Vous avez des bijoux tout autour de la tongue, mm-hmm. et c'est pas une tongue 5, parce qu'aujourd'hui, on a des tongues comme dans les années 90. Hein, c'est quand c'est, même
alors, je décris pour nos auditeurs, un c'est une tongue verte.
Ouais,
donc,
kaki joue.
Oui, kaki, pardon, voilà. Excusez-moi. Non, avec des, comme des perles, des fausses perles, j'imagine.
Exactement.
Que ce n'est pas
des
vraies. Hein,
mais... Non, ce n'est pas des vraies, parce qu'à ce prix-là, ce n'est pas des vraies, ça je vous garantis. Alors l'idée, c'est d'avoir en fait des bijoux un peu partout cet été, d'en avoir non seulement sur les chaussures, d'en avoir sur les vêtements, d'en avoir vraiment partout sur soi. Et bien évidemment, c'est l'accessoire ultime de la saison, puisque c'est comme ça en fait qu'on va enjoliver une tenue. Mmh. Alors ça, j'ai pensé à vous, pourquoi? Déjà parce que c'est un prix très accessible. C'est un tour de cou, c'est un grand collier fait en baie d'açaï. Vous connaissez peut-être l'aliment?
Oui, bien sûr, la baie d'açaï.
Voilà, je me suis dit, elle va avoir envie de le manger, Julia. Oui. Eh bien non, ce collier ne se mange pas. Mais en fait, ce que vous allez faire pour cet été, non seulement on a des couleurs très vives, mais c'est surtout on va beaucoup jouer sur les accessoires. Puisque
très joli
l'idée...
ce collier, ce rat
alors,
de cou.
Alors, il est voilà, un rat de cou jaune, un peu
couleurs.
Très coloré.
Ça fait comme des perles de toutes les couleurs.
De toutes les couleurs très vives. Donc la marque s'appelle Equinox. Et en plus, c'est très éco-responsable, donc c'est intéressant de l'avoir. Ce que je trouve vraiment intéressant et que je retiendrai pour cette tendance estivale, c'est qu'on va faire avec ce qu'on a déjà. Par exemple, vous avez forcément un pantalon blanc dans votre armoire. Mm-hmm. Eh bien, vous allez prendre un maillot de bain et vous allez non seulement le porter la journée, mais vous allez en plus de ça vous en servir comme un body le soir. Mmh. Là, je sens que je vous intéresse. Regardez.
Ouais, moi,
ce que vous allez faire.
Je vais l'enfiler. Hein.
Ça, voilà. Alors, ce maillot de bain-là, il est chez Etam, donc c'est très
accessible. Mais dans
quelle matière?
C'est
en fibre recyclée. Ah. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est une taille unique qui va donc à toutes les morphologies. Regardez quand je fais comme ça.
C'est super étirant.
Pour vous dire à quel point on peut le mettre la journée, je l'ai mis sur un plateau télé. Et franchement, avec une veste, personne ne voit que c'est un maillot de bain.
Ça fait
tout le monde pense que c'est un body. Exactement. Donc, vous allez pouvoir recycler tout au long de la saison et ça, c'est quand même très sympathique. Alors, la couleur, je n'oublierai pas bien évidemment le petit débardeur, un Marcel, ça vous avez forcément dans votre armoire. Vous allez
il y a
pouvoir...
du jaune cet été.
C'est très jaune, on ose le jaune et le jaune ne donne pas forcément mauvaise mine aux rousses comme nous.
Ah oui, j'étais assez hésitante.
Et j'irai plutôt sur un jaune flashy en ce qui nous concerne. Le tie-and-dye qui est encore un imprimé phare indétrônable.
Encore
alors, vous l'avez.
On décrit ce que c'est le tie-and-dye, Sophie.
Exactement. Alors, le tie-and-dye, vous savez, c'est cette impression très 70, un peu, très 70, c'est romantique, délavé. Et en fait, ça se fait de façon très artisanale puisque vous mélangez avec un tissu et vous le mettez dans un bain. Et ça s'appelle un tie-and-dye soleil, par exemple. Donc, c'est des motifs qui sont complètement aléatoires. J'ai une très jolie robe pour vous, robe de plage, qui est en tie-and-dye complète. Donc, c'est une
je l'aime bien celle-ci.
Ça, vous l'aimez
rose et rose clair et rose plus foncé.
Rose et rose clair. Donc, ça s'appelle, c'est chez Love and Let Die.
Très joli.
C'est très romantique, c'est très beau.
Pour la plage.
Et pareil, alors là, c'est en popeline, donc c'est très, très agréable à porter. Autre matière phare que vous avez peut-être dans votre armoire, on en a parlé aussi la semaine dernière, c'est le lin. Vous avez du lin sur vous, Julia.
J'ai du lin sur moi.
Et vous portez du lin parce qu'on ne transpire pas dans le lin.
Exactement.
Voilà, donc c'est très agréable pour les peaux sensibles.
Surtout quand on transpire beaucoup.
Voilà,
vous dites ça parce que j'ai une
forte sudation. Je dis ça parce que j'ai très chaud. Et en fait, si par exemple cet été vous passez visiter le château de Versailles, on ne sait jamais, peut-être nos auditeurs viennent à Versailles, sachez que depuis quelques jours, ils ont réimplanté la Fédération européenne du lin, 3 champs de lin à Versailles, pour inciter en fait effectivement à continuer à réimplanter cette filière textile. Voilà, et je finirai enfin sur les lunettes de soleil, un autre indispensable, Jimmy Fairly. Donc là, des lunettes très très
big,
oversized,
big hein,
jaune,
ouais.
Très big. Et enfin, on va les poster. On a chez Afflelou, peut-être qu'autour de la table il y a des myopes. Oui, vous êtes comme moi, vous avez des lunettes de vue. Eh bien, parfois on a envie de remettre ses lunettes l'été, non pas de mettre ses lentilles de contact. Et donc chez Afflelou, ce qu'on a, c'est qu'on a des lunettes de vue. Vous avez vos lunettes et vous avez des clips avec différentes teintes de solaire que vous allez pouvoir porter sur vos lunettes.
C'est astucieux ça.
Et c'est hyper astucieux parce que c'est pas mal sur la plage des lentilles, c'est désagréable avec le sable.
Eh bien, merci beaucoup Sophie pour ces astuces accessoires d'été. Maintenant qu'on est bien équipé et relooké pour la saison, on va s'envoler vers le Luxembourg avec Gavin Clément-Terruiz. Vous êtes enquêteur, rédacteur au Guide du Routard et en préparant l'émission, vous nous avez dit que vous aviez fait un sondage début juin sur routard.com auprès de 3166 personnes et que le top des destinations hors France des vacanciers français cet été était l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Et bien ce matin, vous déjouez tous les pronostics et vous nous emmenez hors des sentiers battus au Luxembourg. Mais alors pourquoi le Luxembourg? Franchement, on n'y aurait jamais pensé.
Non, jamais.
Justement, il faut faut déjouer les pronostics. Le pas de côté, c'est ce qui marche. Parce que cet été, c'est pas facile hein, pour trouver des billets, non. pour trouver...
Parce qu'il n'y aura personne au Luxembourg, Julien, c'est bah, calme.
Il y aura du monde, mais surtout, c'est un pays qui est tellement proche et assez peu connu, en fait. C'est pour ça que je l'ai choisi ce matin. C'est un pays européen, c'est situé entre l'Allemagne, la Belgique, la France. Il y a 112 000 Français chaque jour qui passent la frontière,
ah oui, hein,
les transfrontaliers. C'est la deuxième capitale européenne la plus proche de Paris, 287 km à vol d'oiseau, et c'est en 2 heures de TGV depuis la capitale. Donc, et le français est la deuxième langue du pays, donc vous ne serez pas perdu, il n'y a pas de souci. 640 000 habitants, 2500 km², c'est pas très grand, et un tiers environ du territoire qui est couvert de forêts. C'est ça qui est assez super, et c'est du coup le pays le plus boisé d'Europe.
Incroyable, je ne savais pas du tout. Ça c'est donc, on va dire, pour la carte d'identité du pays, mais qu'est-ce qu'on peut y faire une fois sur place au Luxembourg?
Eh bien, on va pouvoir faire des randonnées. Alors, on va peut-être mettre les tongs que ma chère Sophia m'a offertes, là. Elles sont très très belles, c'est une tong moumoute.
Non,
là, c'est pas ça qu'on va prendre. On va prendre des grosses chaussures et on va aller se promener un tiers de forêt. Je vous l'ai dit, 1900 km de sentiers de randonnée dans trois régions. Alors, il y a trois régions à peu près au paysage très différent. Il y a la petite Suisse luxembourgeoise, il y a les Ardennes luxembourgeoises aussi et les Terres Rouges.
C'est les Terres Rouges.
Ouais, c'est vraiment ma terre préférée. C'est mon petit coin préféré. C'est pourquoi c'est avec l'ocre de la terre qui est héritée des anciens sites sidérurgiques et du coup avec la forêt, la terre ocre. Ça aussi, c'est une belle couleur pour l'été.
Ça va faire un contraste.
Exactement. Je pense que Julia va être très très belle sur ses selfies avec ses chaussures.
Écoutez, moi j'aime bien marcher, pourquoi pas. Mais côté culture, est-ce que le Luxembourg n'est pas en reste?
Eh bien non, parce qu'il y a Luxembourgville qui est en quelque sorte un grand musée à ciel ouvert. Vous avez le quartier du Kirchberg, par exemple, où vous allez. Là, je pense que c'est les amateurs d'architecture qui vont vraiment s'en donner à cœur joie. Il y a Christian de Potzampar, par exemple, qui a fait la Philharmonie. Vous avez aussi le musée d'art moderne qui a été conçu par Pei, qui a conçu la fameuse notre pyramide du Louvre à Paris. Il y a aussi le quartier du Grund, si vous le souhaitez. Là, c'est classé à l'UNESCO. C'est là qu'est la maison de Robert Schuman, le père de l'Europe. Bref, on est au cœur. On est vraiment au cœur de l'Europe.
Bah finalement, ça a l'air quand même pas mal. Ça a l'air riche, le Luxembourg. Et puis, cette année, une ville du Luxembourg est capitale européenne de la culture, je
et
crois.
Oui, c'est pour ça aussi que j'en parle. Parce que Esch-sur-Alzette, c'est la deuxième ville du Luxembourg.
Vous pouvez le redire,
Esch-sur-Alzette.
D'accord. Okay.
Et Esch-sur-Alzette. C'est à la frontière avec la France. Et c'est une région qui a un passé industriel très, très riche et qui sera justement mis en valeur, qui est déjà mis en valeur parce que c'est capitale européenne de la culture en ce moment. Et l'originalité, c'est que c'est à la fois du côté luxembourgeois et du côté français. Il y a 8 villes françaises qui font partie du programme. Et alors, il y en a pour tous les goûts. Il y a de la photo, il y a des festivals, il y a des concerts, il y a un programme très riche. Je vous conseille d'aller sur le site internet de la capitale européenne. C'est esch2022.lu pour Luxembourg. Vous aurez tout le programme. Bref, si vous passez dans le coin cet été, vous aurez des vacances à la fois nature et culture.
Il y a juste un truc très important que vous avez oublié, Gavin. Qu'est-ce qu'on mange au Luxembourg?
La spécialité locale.
Est-ce qu'on mange bien?
On mange très très bien.
Parce que nous, c'est, en fait, c'est le seul truc qui nous va nous décider avec Julien.
C'est riche et roboratif.
Ah, c'est du genre les... quoi
Vous avez des plats de...
En sauce un peu, ouais, c'est
un
ça.
Un peu beaucoup.
Un peu. Et avec les enfants, on s'ennuie pas au Luxembourg
mais
avec
non,
les enfants?
Non, parce qu'en fait, avec toutes les randonnées, vous allez vraiment vous amuser. Alors, un conseil, prenez pas des tongs hein, déjà, mais prenez des vieilles chaussures parce que avec la terre ocre, ça salive vos chaussures. Mais
et en termes de
climat,
vous êtes sûr qu'on va trouver du beau temps?
Mais carrément, parce que on est vraiment à la frontière avec la France, donc c'est le nord de la France. L'été, il fait bon, il fait frais, et c'est parfait pour aller se promener dans les forêts. Vous allez vraiment vous faites le Minette Trail. C'est justement dans ces terres ocre du Luxembourg. Et c'est là où vous allez pouvoir vous amuser et vous promener dans les forêts.
Et vous
bref,
avez le
pour
sac.
Des vacances très
voilà,
nature.
Par contre, évitez la robe blanche.
Pas la robe en crochet, mais le sac en osier.
Le sac en osier et évitez la tongue avec la petite moumoute par-dessus. Mais sinon, des bonnes chaussures, vous allez adorer. Et surtout, capitale européenne de la culture.
Autre question, ça coûte pas trop cher le Luxembourg? On a l'impression qu'il y a plein de gens plein d'argent.
Non, vous pouvez quand même vous en sortir. Hein. Il y a des endroits où vous pouvez avoir des restos bon marché. Franchement, non, vous n'aurez pas. C'est pas beaucoup plus cher qu'en France. Hein. N'ayez crainte.
Un peu plus. Mais c'est les vacances.
Non, mais franchement, vous avez des restos où vous pouvez manger sur le pouce pour pas trop cher.
Donc même une semaine au Luxembourg, vous recommandez.
Ah mais carrément, carrément. Puis si vous souhaitez, vous pouvez être à la frontière avec la France et puis faire le lien
tous
les jours.
Si on panique,
vous revenez. Non, c'est pas très cher. Non, franchement, profitez-en. C'est l'occasion de découvrir ce territoire et surtout en ce moment, on a tellement besoin de sortir des sentiers battus pour faire des petites aventures hors des territoires vraiment bien sillonnés. Là, le Luxembourg, c'est parfait.
C'est vendu. Merci beaucoup, Gavin, pour cette idée d'escapade ou même d'une semaine complète de vacances. Je rappelle qu'on
vous retrouve tous les samedis aux côtés de William Lémergie dans Samedi en France sur Europe 1.
Exactement.
De 15h à 16h. Voilà, merci à tous d'avoir été à nos côtés ce matin. Bien fait pour vous, c'est terminé. On vous retrouve bien sûr demain à la même heure, dès 11h. Julien, on parlera de quoi demain ?
Eh bien, si je vous dis Léonard de Vinci, Einstein, Marie Curie, Mélanie Gomez. Eh oui, les génies nous ont toujours fascinés.
C'est gentil.
Mais sait-on vraiment ce qu'il se passe dans leur tête ? Eh bien, on va s'interroger sur ces esprits brillants et ce qui les rend aussi intelligents. Leur personnalité, leurs points communs, mais aussi leur santé mentale.